Uri Campus, j'accueille Madame Géraldine Giraudeau. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup à vous de m'avoir invité à parler du dictionnaire.
Effectivement, vous publiez le dictionnaire juridique des Outre-mer. Alors, ce sont près de 100 auteurs qui ont participé à cet ouvrage, 150 entrées. Vous n'êtes pas seul à avoir co-dirigé cet ouvrage. Il y a également Mathieu Maisonneuve. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez vous présenter, Géraldine Giraudeau?
Oui, bien sûr. Je suis professeure de droit public, spécialisée en droit public international. Je m'intéresse à différents aspects du droit international et depuis ma délégation en Nouvelle-Calédonie entre 2017 et 2019 à l'UNC, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'occasion de prendre la mesure, hein, de la richesse, de la complexité des droits ultramarins. Et c'est un peu ce qui est à l'origine de ce projet. Et voilà, j'enseigne à l'université de Perpignan, mais je suis momentanément en Nouvelle-Zélande encore pour quelques mois.
Alors, c'est toute une équipe qui a travaillé sur ce livre. Il a fallu les convaincre, il a fallu réunir plusieurs spécialistes. Comment s'est passée cette phase de préparation?
Alors, il n'y a pas vraiment eu à les convaincre, hein, disons qu'ils ont vraiment très spontanément accepté l'invitation, hein, pour la plupart d'entre eux, pour tous même, je puis dire. C'est un projet, comme je le disais, qui prend ses racines déjà à la base en différents points du globe, puisque Mathieu Maisonneuve a enseigné pendant 8 années à l'Université de la Réunion. Il y a gardé de fortes attaches et il a donc une expertise aussi sur le droit des Outre-mer. Et puis moi, donc du côté de Nouméa, nous avons chacun au sein de nos laboratoires trouvé beaucoup d'enthousiasme quand nous avons évoqué l'existence de ce projet. Et vraiment, les auteurs qui sont nombreux, hein, vous l'avez souligné, puisque nous sommes 94 auteurs, c'est vraiment un travail collectif, ont été eux aussi très, très enthousiastes à l'idée de croiser les regards sur, de partager ces expertises sur les Outre-mer. Et ça a été d'ailleurs, je dois dire, non seulement un travail d'écriture, mais les auteurs ont vraiment participé en amont à l'élaboration du dictionnaire, puisque la plupart d'entre eux ont proposé des entrées. Et il y a d'abord eu un véritable travail, voilà, de détermination des entrées qui devaient être exploitées, hein, des mots qui devaient faire référence au sein de ce dictionnaire. Et puis ensuite, les entrées ont été soumises, ont été rédigées, ont été soumise pour la constitution du manuscrit.
Alors, ce dictionnaire comporte 544 pages, est paru chez LexisNexis. C'est un éditeur spécialisé?
Oui, LexisNexis nous fait l'honneur de publier ce dictionnaire. C'est vraiment une maison d'édition qui bénéficie d'un prestige, d'une reconnaissance qui ne fait pas de doute au sein du monde juridique. Et voilà, nous leur sommes d'ailleurs reconnaissants d'avoir permis la publication de cet ouvrage.
C'est donc un dictionnaire de type encyclopédique, c'est le premier ouvrage juridique global consacré aux Outre-mer. Il y a eu une présentation d'ailleurs au ministère des Outre-mer. On remarque que même au plus haut niveau de l'État, il y a eu un intérêt manifeste pour cet ouvrage.
C'est vrai que le dictionnaire a été pensé comme un outil fédérateur, un outil de connexion, comme je le disais, entre tous ces auteurs qui se trouvent dans tous les territoires français et aussi pour certains en Hexagone, hein, et qui se passionnent aussi pour le droit des Outre-mer depuis l'Hexagone. Et puis, le projet était également vraiment d'en faire un vecteur de diffusion. que ça soit un ouvrage global, puisque on a constaté quand même un manque. Il n'y avait pas, il y avait bien sûr des travaux hein, qui existaient déjà, mais pas à notre connaissance d'ouvrage qui permet d'embrasser à la fois les approches historiques de droit public, de droit privé, tous ces différents angles de ce qu'on appelle le millefeuille juridique hein, ultramarin. Et je crois qu'on peut dire que pendant assez longtemps, le droit des outre-mer a été un petit peu mis de côté. Fort injustement parce que il y a beaucoup de chercheurs qui réalisent des travaux extrêmement intéressants depuis de nombreuses années sur les questions ultramarines. Il y a un dynamisme aussi des universités ultramarines qui est parfois qui a pu être peut-être insuffisamment reconnu. Mais on voit bien qu'au vu des enjeux qui existent de différentes natures, des enjeux actuels économiques, climatiques, maritimes, il y a une prise de conscience, il y a un élan. Il y a un élan et d'ailleurs on observe bien, vous parliez de la cérémonie effectivement qui a pu être faite au ministère des Outre-mer, mais c'est parce que plus globalement il y a des initiatives, Sciences Po a ouvert une chaire des Outre-mer
oui.
hein, il y a peu,
oui.
il y a...
Nous avons participé, oui, effectivement.
Voilà. Il y a une association des juristes du droit des Outre-mer qui a été créée il y a peu de temps aussi. Il y a des projets de recherche sur les espaces maritimes français au sein de différentes universités. Donc voilà, on sent une prise de conscience, un élan. Donc je crois que le dictionnaire, en fait, ne fait que s'insérer dans cette dynamique.
Ce dictionnaire balaie-t-il l'ensemble des thématiques ultramarines?
Alors, au vu de la complexité du sujet, c'est très difficile d'être exhaustif. Et
oui.
Nous en étions conscients dès le départ. Bon, nous espérons toutefois avoir traité quand même vraiment une grande majorité des thèmes qui, selon nous, méritaient d'être analysés et qui permettent d'avoir cette perspective globale et d'entrer dans les détails de l'analyse pour les lecteurs qui le souhaitent. Mais c'est vrai que déjà, et j'en parlais l'autre jour avec Mathieu Maisonneuve, nous avons des idées d'entrée qui pourraient enrichir, pourquoi pas une deuxième édition. On va déjà laisser le temps à celle-ci de s'installer, mais il y a bien sûr d'autres thèmes qui pourraient faire l'objet d'une analyse au sein d'un dictionnaire encyclopédique des Outre-mer.
Ce dictionnaire est-il orienté principalement les outre-mer français ou l'ensemble des outre-mer?
C'est vrai qu'il est, il porte essentiellement hein, sur les outre-mer français, qui en eux-mêmes sont déjà suffisamment riches pour constituer un dictionnaire entier. Mais il était important pour nous d'apporter quand même une dimension comparative. Donc il y a des analyses aussi des outre-mer étrangers, des outre-mer américains, britanniques, espagnols, même si d'ailleurs on voit qu'il n'existe pas d'exacte équivalence avec ce que nous entendons comme outre-mer au sens du droit français.
Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe sur le point juridique ou encore Mayotte et d'autres îles encore, d'autres départements d'outre-mer encore?
Alors, les territoires que vous venez de citer sont des DROM, des départements et régions d'outre-mer. Et le droit français, pour faire court, se tourne autour de cette grande distinction entre les départements et régions d'outre-mer d'un côté, qui dépendent de l'article 73 de la Constitution, et puis les autres, qui ont un plus grand degré d'autonomie, pour résumer, et qui dépendent d'un autre article, qui est l'article 74. Donc la particularité ou les points communs des territoires que vous venez de nommer, dont fait partie la Guyane, qui dépendent de cet article 73, ont des droits qui, bien que connaissant des adaptations, que connaissant des spécificités, sont quand même assez proches du droit que l'on trouve applicable au sein de l'Hexagone.
Il y a 150 entrées, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Géraldine Giraudeau, dans ce dictionnaire. Quelles sont celles qui nous concernent en premier chef, je dirais, en Guyane? Il y a peut-être
Alors, il y a...
le code noir, oui, les combats de coqs également, oui, effectivement, il y en a chez nous. Les cyclones, pas trop.
Il y en a beaucoup en réalité. Il y a des entrées. Déjà, il y a une entrée Guyane, hein, puisqu'il y a
Ah.
une entrée par Outre-mer. Et puis, alors, il y a l'entrée aussi amérindien, hein, de Guyane. Et puis, il y a. Alors, je pense. Pardon, parce que j'ai beaucoup d'idées d'entrée qui me viennent en même temps que je vous parle. L'entrée Orpaillage aussi.
Bien sûr.
Et puis, il y a beaucoup d'entrées qui, bien qu'étant plus générales, vraiment touchent très directement le cas de la Guyane ou la situation de la Guyane. Alors, je pense à celles relatives aux différents territoriaux, hein, avec la frontière, par exemple, avec le Suriname. Je pense à la biodiversité
Bien sûr,
exceptionnelle.
c'est le
Et d'ailleurs,
départ.
la couverture, hein, est une. Je ne sais pas si on peut voir, mais la couverture du dictionnaire est une. On voit mal avec le fond, mais
Oui,
vous avez peut-être une image.
mais
On
on l'affiche à
représente
l'écran.
la forêt amazonienne française. Hein. Donc c'est vraiment très directement ce qui a inspiré l'illustration même de l'ouvrage. L'entrée langue, bien sûr, hein, pour laquelle la Guyane est extrêmement importante. Forêt, droit d'asile. Et je pense aussi à l'entrée laïcité, hein, avec cette particularité que la loi sur la laïcité ne s'applique pas dans tous les outre-mer français pour des raisons historiques. Et elle ne s'applique par exemple pas en Guyane. Voilà, donc il y a vraiment, et cette liste n'est pas exhaustive, il y a vraiment beaucoup de thèmes au sein desquels la Guyane occupe une place tout à fait importante.
La spécialiste du droit que vous êtes, professeur de droit droit public, ça y est, je vais y arriver. Vous avez mentionné tout à l'heure amérindien. Quelle différence faut-il entendre par là entre la thématique, entre le mot amérindien et le mot et peuple autochtone, puisque ce sont deux thèmes que nous utilisons de façon usuelle, je dirais.
Oui, alors déjà, je voudrais ajouter que je ne veux pas me substituer à ceux qui ont livré ces analyses dans le dictionnaire, et je voudrais déjà souligner que plusieurs auteurs de l'Université de la Guyane ont participé, hein, et les entrées d'ailleurs que je vous ai citées. Pour celles qui portent directement sur la Guyane et pour d'autres d'ailleurs, ont été rédigées par des spécialistes de l'Université de la Guyane.
On peut avoir des noms,
Sur la...
peut-être?
Alors oui. Alors nous avons Modèle Fort, par exemple, Tristan Aoustin, et
D'accord.
puis Johanna Falcha, qui est désormais maître de conférence dans l'Hexagone, mais qui était à l'université de la Guyane. Je pense à eux trois. J'espère ne pas en oublier, ne pas faire d'impair. Mais voilà, il me semble qu'il s'agit voilà des auteurs qui viennent de ce centre de recherche, enfin rattaché à l'université de la Guyane. Alors concernant le terme, hein, amérindien et autochtone, il y a une entrée plus générale, hein, sur ce que signifie autochtone au sens du droit et en particulier d'ailleurs au sens du droit international, même s'il n'y a pas de définition en tant que telle, mais on a des critères et qui englobe, hein, la population amérindienne, qui a la particularité, si on la compare par exemple au peuple Kanak de Nouvelle-Calédonie, de ne pas faire l'objet d'un statut légal de peuple à part entière, comme le peuple Kanak dans l'accord de Nouméa.
D'accord. Ce dictionnaire s'adresse à un public averti ou au grand public?
Alors, je dirais qu'il a été principalement écrit pour des des études, un public large, donc des étudiants, des universitaires, des praticiens aussi, hein, beaucoup, mais aussi, je dirais, pour tous les curieux, pour tous les amoureux des Outre-mer. L'autre jour, la directrice générale des Outre-mer évoquait le dictionnaire en disant finalement c'est presque un dictionnaire amoureux des Outre-mer plus qu'un dictionnaire académique. Et ça a été un très beau compliment parce que ça a été fait voilà avec beaucoup de passion, hein, beaucoup d'intérêt vraiment pour cette diversité française. Je pense que même si on y trouve, c'est vrai, des analyses juridiques, pour des personnes qui s'intéressent à ces questions, ça peut vraiment être une lecture qui pourrait leur plaire. Et puis, nous, ce qui nous a séduit à la base dans le format du dictionnaire, c'est que justement, ça permet une lecture, voyez, d'accéder à un degré de détail selon ce que l'on souhaite y trouver. Et c'est d'ailleurs ce qui permettait de rendre compte un peu de cette complexité en ayant un usage facilité. Donc il y a une définition plutôt générale à chaque fois au début et puis ensuite on entre dans les détails juridiques. Donc libre à chacun voilà, d'y trouver, d'y chercher des éléments purement juridiques ou aussi d'aller voir d'autres choses. Et il y a d'ailleurs des entrées, parce que cela nous paraissait vraiment nécessaire, qui ne sont pas spécifiquement juridiques. Certaines d'entre elles ont été rédigées par des scientifiques, hein, je pense à climat, je pense à biodiversité, et puis par des historiens, par des économistes. Hein. Il y a la thématique de la vie chère outre-mer, par exemple, qui est abordée par certains économistes qui ont accepté de participer. Donc voilà, un panel, je pense, assez large pour que le dictionnaire puisse être recommandé auprès d'un public large, curieux de ces questions.
Parfait, cet entretien est diffusé simultanément sur Facebook Live, sur Twitch, également sur YouTube, c'est une première pour nous. Et bien évidemment, vous pourrez le retrouver en radio sur Cayenne et sur Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce qu'on peut s'attendre à une séance signature en Guyane? On sait que le livre est disponible sur plusieurs plateformes en ligne, mais nous, on aime bien le contact physique, on aime bien voir les gens, malgré la période que nous traversons qui est assez difficile, malgré nos masques, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre...
Alors, de façon raisonnée, ça, je voudrais pas multiplier les voyages, surtout en cette période et surtout à un
Covid.
moment, on est tous conscients hein, de nos responsabilités, voilà, en termes de voyage en avion. Mais vraiment, alors, ça serait un très très grand plaisir. Je dois quand même dire que il y aura quelques événements de restitution de ce que j'ai compris, qui vont être organisés au sein de l'Université de la de la Guyane, pardonnez-moi, et qui parlent justement les auteurs que je vous ai cités. Et puis, si j'en ai l'occasion, je serais vraiment, oui, vraiment ravie de pouvoir découvrir la Guyane et d'en profiter pour présenter l'ouvrage.
Alors, on a compris que ce projet était collectif, qu'il y avait près de 100 auteurs qui y ont participé, 150 entrées, 100 spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler la méthodologie que vous avez mise en place pour l'écrire? Et peut-être le temps aussi que cela vous a nécessité.
C'est vrai que c'est un projet au long cours, hein. Ça a commencé il y a plus de 3 ans. Finalement, au vu du nombre d'auteurs, ça aurait pu être plus long. C'est assez satisfaisant. Et ça a été vraiment un processus participatif, hein, comme je vous le disais. Alors tout simplement, ça avait pris la forme de documents en ligne, hein, vous savez, documents partagés, qui permettait à chacun d'apporter les thèmes qui lui semblaient intéressants de traiter. Et puis ensuite, nous nous sommes mis d'accord sur un modèle en fait d'entrée pour quand même homogénéiser le contenu. Et c'est ensuite un travail aussi hein, de correction, évidemment, qui est très, très important avec les auteurs, avec Mathieu Maisonneuve, le co-directeur de l'ouvrage, et puis avec la maison d'édition.
D'accord. Vous pouvez peut-être nous parler pour finir des projets à venir, si vous y réfléchissez déjà, si vous y pensez déjà à d'autres ouvrages, d'autres thématiques concernant peut-être les outre-mer à aborder.
Oui, alors de mon côté, je travaille surtout sur les outre-mer depuis la perspective du droit international. Donc, je m'intéresse de près aux questions des espaces maritimes, un peu, enfin, quoique, mais un peu éloignée du territoire guyanais. Je m'intéresse aussi aux déplacés climatiques dans le Pacifique, mais sur les Outre-mer en général, nous aimerions évidemment que ce dictionnaire trouve une continuité. Ça a été beaucoup de travail, donc là je pense qu'on a besoin que ça se pose un petit peu pour voir quelle forme ça pourrait prendre. D'abord, peut-être quelques séminaires, quelques conférences de restitution, peut-être en voyageant dans certains de ces territoires, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Et puis voilà, réfléchir ensuite à soit une seconde édition ou soit peut-être à une version en ligne qui pourrait être actualisée, mise à jour plus facilement. C'est à voir avec l'éditeur et c'est à voir aussi avec les centres de recherche qui ont été impliqués dans la réalisation du dictionnaire. Et je remercie beaucoup au passage d'ailleurs les laboratoires qui ont contribué à financer l'ouvrage et qu'eux aussi peut-être soient force de proposition et sur la base de ce dictionnaire voilà, organisent de nouveaux projets. Surtout que l'objectif qui était de créer du lien, je pense, est vraiment en train de se réaliser. Nous avons pu nous rencontrer pour certains d'entre nous, lorsqu'on ne se connaissait pas avant, hein, puisqu'on connaissait déjà certains auteurs, mais il y en avait certains aussi qui ont gentiment accepté de participer alors qu'on ne les avait pas forcément encore croisés. Et puis, il y a, je pense que ça va être aussi un petit peu un annuaire, parce qu'il y a la liste des auteurs, mais il y a aussi les références à la fin de chaque entrée qui renvoient aux travaux qui ont pu être réalisés sur la question. Donc il y a aussi voilà finalement des chercheurs qui font partie de ce réseau que l'on crée sans pour autant avoir rédigé toute une entrée. Donc je crois qu'à partir de là voilà, il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent se mettre en place. Et puis au sein aussi hein, de l'association que je citais, des juristes des Outre-mer qui contribuent, qui offrent un cadre très important aussi pour ce réseau.
Madame Géraldine Giraudeau, il y a une aspiration que l'on entend de plus en plus en Guyane, qui consiste à demander plus d'autonomie, plus de décentralisation. Quelle lecture pouvez-vous faire de ces revendications que l'on peut entendre çà et là, d'un point de vue juridique?
Oui, alors parce que moi je ne voudrais évidemment surtout pas entrer dans des considérations qui seraient
Politique?
d'ordre politique.
Non, absolument pas.
Voilà. Non, juridiquement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est toute l'histoire constitutionnelle des Outre-mer, en fait, qui est qui souffre ou qui bénéficie à choisir selon les situations de cette tension entre la nécessité de maintenir le cadre unitaire français
Tout à fait.
et la nécessité très forte de s'adapter aux spécificités des territoires.
Absolument.
Et effectivement, il n'y aurait aucun sens à ne pas le faire. Il y a des situations particulières. Il y a même une complexité hein, des sociétés ultramarines du point de vue linguistique, du point de vue historique, qui ne peut être que reflétée dans le droit. Il y a un besoin aussi de s'insérer dans son environnement géographique, en étant partie pour certains de ces territoires d'organisations internationales, internationale, en ayant des compétences internationales. Donc, il y a un besoin très fort, effectivement, d'adaptation, presque de faire du cas par cas. Et c'est un petit peu ce qui s'est fait. En revanche, le reproche qu'on peut faire, peut-être, c'est justement la complexité dont je parlais, à laquelle ça a donné lieu. Il y a, et c'est le constat qui est partagé par beaucoup des auteurs du dictionnaire et par les acteurs que nous avons rencontrés aussi à l'issue de la publication, il y a un besoin de clarification. Parce que même pour des jurys spécialistes de la matière, pour certains aspects, c'est presque illisible. Il y a un tel millefeuille juridique, comme je le disais, il y a un tel éparpillement de textes, des chevauchements parfois, que l'application du droit y perd parce que ça devient, parce que c'est excessivement compliqué. Donc, ça va être le travail du législateur, mais aidé aussi, j'espère, par ce genre d'initiative, continuer à adapter en clarifiant.
Oui, en fait, ma question, au fond, c'était de savoir est-ce qu'il y avait déjà un arsenal de prévus, tant au niveau de la Constitution, au niveau du droit, ou est-ce qu'il fallait absolument une certaine évolution, une certaine adaptation de nos droits à ces revendications ?
Bah, le cadre constitutionnel, d'un point de vue juridique, paraît déjà assez souple et suffisamment adapté. Bon, il y a déjà eu cette grande réforme hein, en 2013, qui fait qu'on ne parle plus hein, de dom-tom, mais de drom, justement, et des autres collectivités, et qui, depuis déjà longtemps, hein, permet justement l'adaptation des textes aux spécificités ultramarines. Même pour celles relevant, enfin pour les territoires relevant de l'article 73. Donc, au niveau du cadre général constitutionnel, il semble quand même que cette marge de manœuvre soit suffisamment prévue.
Peut-être juste l'occasion de rappeler pour nos auditeurs et internautes la différence entre l'article 74 et 73, sans rentrer trop dans les explications, les détails.
Oui, c'est... Je ne vais pas vous assommer avec les détails juridiques, mais l'article 73 va renvoyer vers le principe d'identité législative, c'est-à-dire que le principe, c'est l'application des textes de loi avec des possibilités d'adaptation. Alors que pour l'article 73, il y a le choix de la spécificité législative, c'est-à-dire que là, les lois, par exemple, qui vont être votées ne seront applicables à ces territoires que sur mention expresse. Donc, ça peut donner lieu à des situations très différentes, parce que si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas article 74, mais qui est même plus loin, si je puis dire, parce qu'elle fait l'objet d'un statut spécifique, la Nouvelle-Calédonie peut voter ses propres lois, pour faire court. Ce qui signifie que lorsqu'on arrive sur le territoire calédonien, le droit est très éloigné et très différent du droit que l'on peut trouver dans l'Hexagone. Donc, ça va être la grande différence. Et c'est une différence qui se retrouve au niveau aussi du droit de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une grande différence entre les territoires relevant de l'article 73 et de l'article 74, puisque la Guyane, comme les autres collectivités de l'article 73, constituent des RUP, des régions ultra-périphériques, au sens du droit de l'Union européenne. Donc, on retrouve cette grande distinction, non seulement au niveau du droit national, mais aussi au niveau du droit de l'Union européenne.
Des adaptations et surtout cette aspiration des uns et des autres à davantage d'autonomie qu'une adaptation plus forte par rapport aux réalités qu'ils vivent. Et je disais que la collectivité territoriale, oui, de Guyane, s'inscrit peut-être déjà dans cet esprit qui remplace le Conseil général et le conseil régional qui existait.
Oui. Tout à fait, c'est dans ce sens-là qu'ont été les dernières évolutions institutionnelles et juridiques. Et puis, d'ailleurs, ça montre bien finalement que l'unité de l'État français ne veut pas dire uniformité. Hein, que finalement, On présente souvent l'État français comme le modèle de l'État unitaire et on se rend compte qu'au sein de cet État unitaire, il y a de très grandes variétés, de très grandes déclinaisons juridiques qui sont parfois justement méconnues et c'est bien pour ça qu'on a cherché à faire le dictionnaire. Et dans certains de ces territoires aussi, hein, qui sont des illustrations d'un véritable pluralisme juridique. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un besoin, même dans un cadre unitaire, de décliner les spécificités et les complexités de chaque territoire.
Très bien, Géraldine Giraudeau, vous avez co-dirigé avec Mathieu Maisonneuve ce dictionnaire juridique des Outre-mer paru récemment chez Lexis Nexis. Ce dictionnaire qui répond à un certain nombre de problématiques d'un point de vue juridique dans nos territoires d'outre-mer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bien évidemment, l'ouvrage est disponible sur les différentes plateformes en ligne. Nous invitons nos internautes et nos auditeurs à se le procurer. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.